renouvelables,
des applications,
santé publique,
eau potable,
environnement médiatique,
développement durable,
technologie,
écologie,
économie,
droits humains, démocratie, respect de la
politique internationale, biodiversité,
pollution, paix.
Parce que pour faire avancer les idées, il faut les brasser. Cette semaine à Delirium Environnemental, pour vous divertir, mais surtout pour vous informer, on vous a concocté une petite émission bien spéciale. En effet, on vous dresse le bilan environnemental de l'année 2004. On vous parlera donc de tous ces dossiers qui nous ont occupés en 2004, c'est-à-dire qu'on abordera les questions d'énergie, de changement climatique, de transport, de biodiversité, d'OGM, de pollution, de politique, de développement durable et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses. C'est un devoir de mémoire que nous nous donnons parce que, comme le dit Solar si bien, prendre du recul, c'est prendre de l'élan. Et bien sûr, comme d'habitude, Delirium Environnemental va se terminer avec les coups de cœur et les coups de masse version revue de l'année 2004, bien entendu, et quelques suggestions d'activités environnementales pour récupérer le creux de l'hiver. Le genre de micro pour vous divertir, mais surtout vous informer. Comme vous le savez probablement, ou si vous le savez pas, ben je vous l'apprends. Delirium Environnemental, c'est un magazine radio d'information en environnement. C'est aussi un site internet où vous pouvez aller lire une foule d'informations et également une cyberlette à laquelle vous pouvez vous inscrire. Question de rester informé. Delirium Environnemental, c'est aussi et surtout possible grâce à une équipe magique et j'ai nommé Nicolas Mainville, qui est de retour parmi nous, Patrick Bonin et Nicolas Milo, et Étienne Côté-Paluc, qui est notre webmestre ainsi que notre metteur en ondes préféré. Et puis l'équipe, c'est également Hugo Lachapelle, qui est sur les routes du Canada et qu'on salue bien bas pour l'occasion. Messieurs, comment allez-vous?
Très bien, très bien.
Heureux d'être en retour, j'en suis sûr.
On est prêts.
Vous êtes prêts, hein? Si vous voulez, on ne perdra pas plus de temps que ça parce qu'on se donne le très gros défi en une heure et demie de faire une revue, une rétrospective de ce qui a occupé l'année environnementale 2004. Donc, gros, gros défi. Alors, si vous permettez, on commence tout de suite par quelque chose qui nous touche. Nous, on aime ça, se laisser toucher par les choses en environnement. C'est difficile de ne pas être émotif par rapport au sujet qu'on aborde. Bien, on commence en l'étant contre ce que M. Mulcair peut dire. Nous, ça ne nous dérange pas. On est des gens de cœur. Donc, on se le permet. Donc, on brise la glace aujourd'hui avec la nouvelle qui, selon vous, a le plus marqué la scène environnementale en 2004, que ce soit au Québec, au Canada ou sur la planète. Nicolas Mainville, je t'inviterai à casser la glace.
Ah oui, j'ai l'honneur de commencer l'événement de l'année 2004.
L'événement ou la chose qui a marqué l'année?
Je pense que, sérieusement, même s'il fait pitié et il n'y a plus personne qui l'aime à part la moitié de sa population, je me dois de dire que la réélection de George W. Bush à la tête des États-Unis est un événement environnemental majeur, autant pour les États-Unis que l'Amérique du Nord, que la planète en entier. Les quatre prochaines années vont être malheureusement moins vertes qu'elles l'auraient pu être avec M. Kerry. Donc pour moi, 2004, c'est ponctué de la réélection de George Bush.
Mais qu'est-ce qui te fait dire ça, Nicolas? Est-il si méchant? Il fait la guerre, mais environnementalement parlant, qu'a-t-il à se reprocher?
C'est un désastre, mesdames et messieurs. Allez voir sur tous les lèvres des environnementalistes aux États-Unis, c'est le chaos total.
Mais d'abord, il a continué à refuser de ratifier Kyoto.
Entre autres.
Entre autres choses, il y a plusieurs des lois, entre autres...
Le Clean Air Act, le Clean Water Act, les forêts, je pense que tous les pans environnementaux aux États-Unis sont attaqués de plein fouet par George W. Bush et sa gang. Donc, c'est mon coup de masse en même temps pour cette réélection.
Sans compter que tous les budgets de l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement aux États-Unis, ont été coupés de quoi, je pense, c'est quasiment de moitié. Donc, bon, c'est dans l'ensemble de son œuvre.
Définitivement, et connaissant l'influence qu'il peut avoir sur tout le reste de la planète, en effet, c'est un événement marquant. On poursuit avec ce qui a marqué Patrick Bonin. Patrick Bonin, fin analyste de la chose environnementale. Qu'est-ce qui, d'après toi, a vraiment marqué l'année environnementale?
Eh bien, je crois que je passerai des dirigeants à la population pour vous dire que la population s'intéresse de plus en plus aux enjeux climatiques.
Arrête ton sarreau, là.
D'accord. Donc, soyons un peu plus sérieux. Mais en fait, c'est de toute évidence le fait que la population s'est tellement montrée de plus en plus intéressée aux problématiques environnementales. On se souvient, entre autres, une fameuse étude, un sondage qui a été fait où 80% des Canadiens disaient que la plus grande préoccupation pour eux, c'était l'environnement, et ça même avant l'économie et la santé. Donc, on pense aussi au projet du Suroît où la population est sortie dans la rue, a manifesté. Donc, une population qui demande justement de plus en plus un respect de l'environnement. Et à côté de cela, un petit peu justement un manque de vision. On parlait de George Bush, faut pas se le cacher qu'au niveau politique, autant au niveau canadien qu'au niveau provincial, on a eu quelques problèmes dans la dernière année. Dans la dernière année, on a eu définitivement des problèmes, entre autres une utilisation, comment dire, outrancière du concept de développement durable. On se souvient que sous le prétexte du développement durable, on a passé une loi pour permettre le passage de motoneige en pensant simplement à un aspect économique. Donc, ce serait plutôt justement le virage de la population et le mutisme des politiciens, selon moi.
Intéressant. C'est vrai que l'année 2004, ça a vraiment été marqué par un éveil. Tu parlais de l'éveil social à la chose environnementale en termes d'intérêts qui sont manifestés tout au cours de l'année 2004, en commençant par le Suroît. Peut-être aussi ajouter l'éveil médiatique, puisque les médias ont récupéré le tout pour justement peut-être rassasier les lecteurs et les auditeurs afin de leur fournir l'information dont ils ont besoin. Merci à tous les journalistes environnementaux. Nicolas Milo, toi, la chose, l'événement qui a marqué l'année 2004, selon toi?
Eh bien, on ne pourra pas passer sous silence cet événement-là, l'automne 2004, qui a vu la Russie ratifier le protocole de Kyoto. Une excellente nouvelle, du moins on l'espère, pour le futur de la planète, parce qu'il fallait effectivement qu'il y ait un premier geste, et on peut conclure que le premier geste a eu lieu. Cet hiver, le protocole entrera en vigueur. Maintenant, je teinterai mon propos, c'est une excellente nouvelle, mais en même temps, comme le développement durable, comme les beaux concepts, par exemple, de gestion intégrée, ben il va falloir faire attention à ce que le protocole de Kyoto ne soit pas récupéré uniquement par les politiciens et que l'on ne voit qu'encore de la politique aérienne se faire autour d'un concept et des obligations du protocole de Kyoto. C'est ma crainte. Les négociations autour du protocole ont souvent eu lieu autour d'arguments économiques, malheureusement. Donc, j'espère que 2005 et que les années suivantes jusqu'à 2012 vont nous montrer qu'il y a un éveil. Et c'est peut-être, avec ce que disait Patrick, parce qu'il y a une population de plus en plus éveillée, que les obligations du protocole de Kyoto vont vraiment entrer en vigueur, et non pas juste par la soi-disant bonne volonté des gouvernements.
Je pense que je suis vraiment d'accord avec le propos de Nicolas sur l'importance de la ratification du protocole de Kyoto par la Russie. D'autant plus qu'on peut s'imaginer ce que cela aurait été si la Russie n'avait pas ratifié. Et c'est là qu'on aurait tombé dans une espèce de chaos bureaucratique,
le néant.
Je pense que c'est un très bon point, Nicolas Milo. J'approuve.
En fait, peut-être simplement rappeler de façon contextuelle que les pourparlers autour de Kyoto ont commencé, si ma mémoire est bonne, autour de 1997. Donc, ça fait déjà 7 ans.
Ça a été signé, en fait, en 97. Le protocole existe depuis 97.
Et donc, il rentrera en vigueur le 16 février.
16 février 2005.
Exactement. Ben, c'est né de 92, de la rencontre de Rio, le gros sommet de la Terre qu'il y a eu à Rio de Janeiro. Donc, depuis ce temps-là, ça fait longtemps.
Qu'on en parle longtemps pour que les choses se passent. Moi, je dirais peut-être que sur la scène québécoise, c'est la récupération du terme développement durable, de l'expression développement durable par une classe politique qui, ma foi, est tout à fait épeurante parce que, d'un côté, ils agissent dans un sens qui ne va pas du tout dans celui du développement durable et de l'autre côté, il y a récupération politique et du terme développement durable, mais aussi de cette espèce d'engouement pour la chose environnementale au niveau citoyen, où est-ce qu'on met en place des commissions d'enquête, d'études, on dirait à la limite pour rassurer la population, mais on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans l'émission, puisqu'on parlera entre autres d'OGM, où est-ce que c'est très clair qu'il y a eu récupération politique des aspirations citoyennes, en tout cas en termes d'étiquetage, mais nous y reviendrons. On s'arrête 2 secondes et on vous revient, on vous parle de changement climatique.
Ooh.
écoutez toujours Delirium Environnemental et cette semaine, on se donne le comme mandat de faire notre devoir de mémoire et de se rappeler ce qui a marqué l'année 2004. Question d'enclencher du bon pied l'année 2005. Une année teintée par les changements climatiques sur plusieurs fronts, tant au niveau scientifique, politique que géobiophysique. Quand on se rappelle le nombre d'événements climatiques extrêmes qu'il y a eu en 2004, c'est absolument impressionnant. Des tornades, des cyclones, des inondations, etc. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, les changements climatiques, peut-être un rappel de l'année 2004, Patrick Bonin?
Oui, en fait, les fameux événements extrêmes, c'est pas toujours évident de les relier au changement climatique. Il y a plusieurs écoles de pensée à ce niveau-là, mais il y a des choses qui ne trompent pas par rapport au changement climatique. On peut vous parler du fameux réchauffement de la planète. La moyenne des températures planétaires, eh bien, 2004 se situe au quatrième rang des années les plus chaudes depuis 1861. Octobre 2004 arrive d'ailleurs au premier rang en termes de mois, et ça, c'est selon l'Organisation météorologique mondiale. Si on prend, par exemple, les 10 dernières années, soit depuis 1995, on a vécu 9 des 10 années les plus chaudes en 143 ans. Donc, de toute évidence, on s'en va vers un changement climatique en termes de réchauffement de la planète. On le sait très bien, augmentation de combien? 0,6 degrés au dernier siècle. On s'attend à des augmentations de 1,5 jusqu'à 7 degrés pour les 100 prochaines années. Il y a une hausse inquiétante du niveau de CO2 dans l'atmosphère. On atteint des niveaux de CO2 jamais vécus depuis justement le début de l'industrialisation. On est rendu par exemple à 379 parties par million de CO2 dans l'air. Avant, c'était 280 avant l'âge pré-industriel, si vous voulez. Donc, tous les chiffres scientifiques disent qu'il y a vraiment un apport de l'humain pour les émissions de gaz à effet de serre, entre autres le CO2 dans l'atmosphère. Et on a d'ailleurs des phénomènes qui se manifestent de plus en plus à travers la planète. On a beaucoup d'études qui ont sorti l'an passé. Nicolas, on a déjà une que vous avez sûrement entendu parler.
Ben oui, en fait, ça a été impressionnant 2004, point de vue études sur les changements climatiques. Il y a vraiment eu de plus en plus de budget alloué aux études sur ces phénomènes-là. Je pense que celle qui est sortie le plus, c'est celle du Arctic Council, le Conseil de l'Arctique, qui nous a montré à quel point l'Arctique est en train de fondre rapidement. On évaluait à 8% de diminution dans les 30 dernières années, donc c'est deux fois la taille de la France qui ont fondu dans les 30 dernières années. Donc des études comme ça qui ont, d'une certaine façon, encore une fois, sonné l'alerte, l'importance des changements climatiques et de voir à quel point que les zones arctiques et glaciaires sont les plus affectées et c'est là que les changements se passent le plus rapidement possible.
Bien, en fait, si vous permettez d'enchaîner tout de suite là-dessus, il y a l'Arctique qui fond, mais il y a les glaciers du monde entier qui sont en train de fondre. On pense aux cimes neigeuses de plusieurs monts très élevés partout dans le monde, le Kilimanjaro, entre autres.
Un petit exemple rapide, dans les Alpes, le nombre de décès dus aux avalanches estivales, phénomène qui n'était pas très répandu avant, augmente en flèche année après année depuis justement ces 10 dernières années-là dont Patrick nous parlait, où il fait de plus en plus chaud, mais où les comportements humains n'ont pas encore eu le temps de changer. Les gens vont encore gravir le Mont Blanc en plein milieu du mois d'août, puis il y en a beaucoup qui y restent.
Moi, je vous invite à aller vous procurer une revue, ça s'appelle la revue La Recherche, et justement, le mois de janvier, c'est un numéro spécial sur les changements climatiques. C'est extrêmement bien fait, et c'est pas parce que ça s'appelle La Recherche que c'est du langage incompréhensible, c'est justement de la vulgarisation très claire, A à Z, changement climatique. Entre autres, vous allez voir là-dedans que dans les Alpes, d'ici 2080, on s'attend à ce qu'il n'y ait plus de glaciers du tout alpins, donc les Alpes en France, en Europe, en fait, je vous rappelle, et vous allez voir l'ensemble de ces nouvelles-là, de ces études-là qui sont assez, par exemple, 2 milliards d'êtres humains d'ici 2050 qui seraient affectés par les inondations, la fonte du Groenland, une augmentation de 7 mètres de la mer dans les 1000 prochaines années. Je ne sais pas si vous savez, mais augmentation de 7 mètres, ça risque de faire beaucoup d'inondés.
Ce qui est important aussi de mentionner, c'est que constamment, pendant que ces études-là sortent, les scientifiques s'ostinent entre eux autres. Puis c'est important de le mentionner, c'est toujours des écoles de pensée. Tu mentionnais le nombre de personnes affectées par les inondations. Évidemment, les gens s'ostinent encore. On n'est pas sûr sur qu'est-ce qui va se passer, évidemment. Mais on est capable déjà de mesurer à court terme. Et par exemple, dans les Andes, on sait que d'ici 2015, il n'y aura plus aucun glacier sous la barre des 6000 mètres qui va persister à cause qu'il fait trop chaud. Et c'est des choses qu'on mesure vraiment sur le terrain.
Je pense qu'il faut absolument qu'on parle, par exemple, de ce qui se passe un petit peu. On a parlé de la Russie qui avait ratifié. Au Québec, entre autres, oui, on a une forme de gouvernance au Québec. On a un plan d'action pour les changements climatiques. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que notre plan d'action est valide pour l'an 2000-2002. Donc, malgré le fait qu'on a une augmentation significative des émissions de gaz à effet de serre l'an passé au Québec, eh bien, on n'a pas de plan d'action, on n'a pas de signature avec le fédéral. Et au niveau du fédéral, ça va encore... aussi pire. Ouais, ça va encore aussi pire qu'au Québec en termes de gestion des changements climatiques.
Et puis ce qui est intéressant aussi de voir, c'est combien c'est frappant comment la position entre l'Europe et l'Amérique est complètement différente. On se rappelle qu'au mois de mars dernier, le 11 mars, l'Europe décidait qu'avant même que Kyoto soit ratifié, de faire de Kyoto force de loi sur le territoire européen. Pendant ce temps-là, au Québec, le plan d'action sur les changements climatiques est désuet, voire même tabletté depuis trop longtemps. Au Canada, c'est la même chose. Aux États-Unis, on ne parle même pas de changement climatique, à moins de dire qu'il n'existe pas.
Mais, attends un peu, George Bush, en 2004, a avoué pour la première fois que l'effet de serre qui est à la base des changements climatiques était un phénomène réel. Imaginez-vous. 2004.
Mais c'est parce que lui, il pense que ça relève des croyances, comme sa croyance en Dieu. Fait que c'est sûr qu'il doit avoir un peu de misère à comprendre. Peut-être plus positivement, ici au Canada, on s'est pas engagé au niveau législatif réellement. Par contre, il y a plusieurs petites choses, comme le défi d'une tonne du gouvernement du Canada qui a été mis en place, qui a été lancé, qui invite tous les Canadiens et Canadiennes, ainsi que les Québécois et Québécoises, à réduire d'une tonne leur consommation, leurs émissions de gaz à effet de serre annuelles. Donc, plusieurs trucs qui sont donnés sur le site du gouvernement du Canada, défidunetonne.org.
Allez visiter notre site web, radiodelirium.net, vous allez avoir un lien immédiat. Et c'est beau, ce fameux défi d'une tonne-là, parce qu'on dit, allez-y, citoyens, vous êtes capables, diminuer vos émissions de gaz à effet de serre. Mais comme tu l'as rapidement dit, Sofiane, et je pense que c'est important d'insister là-dessus, au niveau fédéral, on n'a pas de législation, donc on ne contraint pas autant les industriels que les constructeurs automobiles, par exemple. Le Canada est un des pires exemples pour la planète en termes, justement, de gestion de ses émissions de gaz à effet de serre. On demande tout aux citoyens, on fait rien. En 2002, les derniers chiffres qu'on avait qui sont sortis l'an passé, eh bien, encore une fois, 2,1% les augmentations des gaz à effet de serre au Canada. On s'en va pas dans la bonne direction. Je vous rappelle, l'objectif sur la moyenne en 2008-2012, c'est de diminuer de 6% nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Et là, juste en 2002, on les a augmentées de 2%.
OK. Deux choses peut-être qu'on peut dire, parce que c'est bien beau de parler de changement climatique et du défi d'une tonne, mais c'est important d'outiller les gens. Peut-être juste rappeler que les deux principales sources d'émissions de gaz à effet de serre sont le transport des personnes pour 38% et ensuite le chauffage des habitations. Donc, toute mesure d'économie d'énergie, que ce soit dans le transport personnel ou dans le chauffage de vos habitations, est un pas dans la bonne direction. Dernière petite chose positive, peut-être aussi, en décembre 2004, il y a eu l'inauguration du Centre québécois d'action sur les changements climatiques.
Ouais,
c'est un site Internet, en fait, que vous pouvez trouver à partir de notre site Internet à nous au www.radiodelirium.net, mais également sur www.changementclimatique.qc.ca. Vous allez trouver une foule d'informations absolument pertinentes. D'ailleurs, il faisait un lien entre les changements climatiques et les tsunamis. J'ai trouvé ça un peu étrange. Allez le lire, vous pourrez m'en parler. J'en profite peut-être pour offrir mes sympathies, mes vœux de courage et de détermination à toutes les personnes qui ont été touchées lors de ces événements extrêmes. Vous écoutez toujours Delirium Environnemental, le magazine radio d'information en environnement. Je vous rappelle que vous pouvez trouver une foule d'informations à partir de notre site Internet ainsi que réécouter des émissions archivées. Si vous venez nous découvrir, vous pouvez écouter les émissions de 2004 et même, pourquoi pas, de 2003. C'est au www.radiodelirium.net. Tous ceux qui voudraient s'y rendre, je vous invite à aller dans la section Contact parce qu'on a un magnifique ouvrage à faire tirer. Le titre, c'est Les changements climatiques, 2 points, l'effet de serre expliqué. C'est de Monsieur Claude Villeneuve, qui est une sommité en termes de changement climatique et de vulgarisation scientifique en regard des changements climatiques ici au Québec. C'est une gracieuseté de CO2 Solutions, cette compagnie dans le coin de Québec qui nous a offert gracieusement, encore une fois, ce livre pour qu'on puisse le faire tirer. Donc, la première personne qui nous envoie un mail dans la section Contact sur notre site Internet aura la chance de recevoir cet ouvrage par la poste. Ça nous fera beaucoup plaisir. Alors voilà, donc on continue notre rétrospective de l'année 2004 parce que ça a été une année verte et brune, entre autres parce qu'il y a un dossier qui vraiment, je pense, au Québec a participé grandement à l'éveil des consciences et sociales et médiatiques et plus timidement politique. Et c'est des questions énergétiques. Les choix énergétiques du Québec ont été mis à l'agenda public. Tout le monde y a mis son grain de sel. On en a beaucoup parlé et pour de très bonnes raisons. Qu'on pense au Suroît qui avait lancé le débat en janvier, à ce temps-ci, en janvier passé. Grosse manifestation impressionnante. Beaucoup de monde dans la rue pour réclamer un développement plus durable des énergies au Québec. Donc, un gros dossier qui se lance. C'est tout un dossier que vous avez beaucoup à cœur, messieurs. Patrick?
Ah, qu'on l'a à cœur, ce fameux Suroît. On l'a tous suivi comme vous l'avez fait. Eh bien, simplement vous rappeler peut-être les grands moments de cette saga. On sait que le Suroît, c'est la centrale thermique au gaz naturel qui, au Québec, voulait mettre à Bécancour, tout près de Montréal. Centrale thermique qui...
Non, c'est la Cogem.
Ce n'est pas la même chose. C'est une centrale thermique au gaz naturel. On parle beaucoup de cogénération. J'y arrive en deux temps, trois mouvements. Ne vous inquiétez pas. Eh bien, Hydro-Québec qui vous laisse l'entrée. On se souvient, grand froid au Québec annonce qu'on va manquer d'électricité. Donc, on a besoin d'une centrale thermique au gaz naturel. La plus grosse manifestation environnementale de l'histoire du Québec. 7 à 10 000 personnes dans la rue un 1er février pour dire non, nous, on veut pas de cette centrale qui va être à peu près l'équivalent de 600 000 voitures en émissions de gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre qui réchauffent la planète, on s'en souvient. Donc, les Québécois qui sont avertis ne disent on veut pas ça. Une coalition, un mouvement citoyen qui se met en place. Hydro-Québec qui essaye de nous sortir n'importe quelle histoire. Il n'y a plus d'eau dans nos barrages. Il fait froid, ça va pas bien. Le gouvernement qui tourbillonne, Sam Hamad, qui se contredit, qui change trois fois l'idée dans la même journée. Sam Hamad, qui est notre ministre des Ressources naturelles, jusqu'à probablement le prochain remaniement ministériel.
Mais d'ailleurs, depuis, ils l'ont caché derrière et il n'a plus le droit de parler aux caméras, je pense.
En fait, il a été malade pendant un bout de temps. Il est revenu par la suite. Et il y a eu beaucoup de dissidence au sein du gouvernement. Suite à ça, rapport de la Régie de l'énergie. Donc, on commande une étude à savoir est-ce qu'on a vraiment besoin du Suroît au Québec? C'est quoi la demande d'électricité qu'on va avoir? Comment ils répondent au Québec? Eh bien, rapport de la Régie de l'énergie qui dit que, justement, ce n'est pas nécessaire, mais souhaitable, cette fameuse centrale thermique au gaz naturel. Mais en fait, c'est un calembour. On nous en a passé une petite vite en disant que la centrale thermique, le Suroît, on la mettrait de côté éventuellement. Eh bien, on a passé la première centrale thermique au gaz naturel au Québec, dite de cogénération qu'on appelle, et c'est la centrale de Bécancour. Je vous explique rapidement un petit peu pourquoi on appelle ça de cogénération. C'est simplement qu'on produit de l'électricité avec du gaz naturel. La vapeur qui s'en échappe, on s'en sert pour fabriquer encore une fois de l'électricité. Donc, si on regarde un petit peu le Bureau d'audience publique en environnement. Ils ont fait des études sur cette centrale-là. Ils ont conclu que c'est environ la même chose. Ça diffère sensiblement pas du projet du Suroît. On va brûler 920 millions de mètres cubes de gaz naturel par année au Québec.
En termes d'émissions de CO2, on se souvient qu'une image très forte avait fait le tour du Québec. Je ne parle pas de celle de la tarte de M. Caillé, j'y reviendrai, mais bien des 600 000 voitures de plus auxquelles équivaudrait le Suroît. Si ma mémoire est bonne, pour ce qui est de Bécancour, c'est 400 000 voitures. C'est un équivalent de 400 000 voitures en termes d'émissions de CO2.
En termes de CO2, exactement, ça représente 1,8% du total estimé des émissions au Québec. Donc, 2% d'augmentation juste avec cette centrale-là qui est arrivée au Québec. Et évidemment, je vous rappelle qu'on veut diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour la première fois au Québec, on s'en va dans le thermique. Et ça, c'est très dangereux, malgré les belles annonces qu'il y a eu par la suite en termes d'éolien et tout.
L'une des autres grosses critiques qui est faite en regard de ce projet, c'est qu'une des façons d'utiliser le gaz naturel qui est beaucoup plus avantageuse, c'est de l'utiliser directement dans les foyers et pas d'en faire une grosse usine centrale.
En fait, les rendements sont nettement plus intéressants en termes de chauffage uniquement si on va directement chauffer au gaz naturel dans chaque maison, comme plusieurs le font déjà, et non de faire de l'électricité qui, elle, après ça, va aller servir à chauffer.
Le taux de rendement à la maison est de 95%, tandis que si on fait une centrale pour produire de l'électricité avec du gaz naturel, par exemple Bécancour, on parle de 54%.
Donc, en termes d'efficacité, 95% d'efficacité contre 54% pour une centrale.
Beaucoup plus d'émissions de gaz à effet de serre pour la même quantité.
C'est d'un ridicule, puis c'est d'autant plus ridicule qu'on s'est vraiment fait passer ça sous le nez sans qu'il y ait manifestation, parce qu'il y a eu tellement une mobilisation sur ce roi que Bécancour a passé haut la main, comme dans du beurre. Mais je pense que, si je peux me permettre, pendant que j'ai le micro, un événement extrêmement important à mentionner pour l'année 2004, c'est évidemment les deux grosses études qui sont sorties sur les cartes des vents au Québec. Je pense ce qui ont vraiment permis d'allumer la cloche, de faire sonner la cloche des Québécois sur le potentiel éolien du Québec et sur l'orientation énergétique du Québec en général.
On se souvient que les médias titraient l'Arabie Saoudite
de l'éolien. Évidemment, je pense que c'est vraiment important de le mentionner parce qu'en plus de créer un précédent dans la population, ça l'a fait bouger d'une certaine façon les dossiers énergétiques.
Dans ce sens-là, là, parce que là, on a beaucoup parlé de Bécancour, du Suroy, etc. Donc, le portrait énergétique du Québec est en train de changer. On est en train de prendre des décisions qui vont orienter la suite beaucoup. Donc, qu'est-ce que vous retenez de l'année 2004 en matière d'énergie? Est-ce que, parce que là, on n'a pas parlé beaucoup d'éolien, de développement d'éolien, etc. Donc, il doit rester beaucoup de choses à dire.
Bien, des choses à dire. Premièrement, le débat est beaucoup plus vaste que simplement la question du Suroy ou des usines que l'on voudrait fabriquer pour faire de l'énergie à partir du thermique. On peut rajouter à ça l'exploration gazière pétrolière dans le Golfe. On peut rajouter à ça les deux projets de port méthanier qu'on a sur la rive sud, un à Québec, un autre à Gros-Cacouna, qui sont passés complètement derrière le méga dossier de l'heure qui était le Suroy. Et ça, ça rentre totalement dans la même veine. On s'appelle aussi qu'Hydro-Québec est très présent dans ces projets-là aussi. Les projets d'exploration gazière dans le Golfe, ils sont là aussi. Donc, l'éolien, oui, c'est très intéressant. On a eu aussi le programme de réduction d'économie d'énergie Hydro-Québec, ce qui est passé, d'efficacité énergétique. L'économie d'énergie aussi rentre dans le discours, mais on se rappelle qu'on a au Québec un débat gigantesque à faire sur comment on doit utiliser ou non utiliser le thermique, le gaz naturel, et en même temps, comment se libérer du pétrole. Et un petit chiffre en passant, on se rappelle qu'Hydro-Québec, l'année passée, a fait des profits de 1,9 milliard de dollars. Donc, c'est pas comme si ça allait trop mal.
Peut-être que ça nous permet aussi de nous rappeler qu'il y a eu beaucoup d'augmentations au niveau des tarifs des particuliers. C'est une augmentation de 6 % des tarifs chez les particuliers qui ont été faits. Je me souviens d'avoir entendu Caillé dire, M. André Caillé, président d'Hydro-Québec, à la fin de l'année, il y avait d'ailleurs une caricature de, je me souviens plus, Chapleau probablement, qui était absolument magnifique, où est-ce qu'il disait, moi, je fais de la tarte. Mon travail à moi, c'est de faire la plus grosse tarte possible. Puis c'est au gouvernement Charest de diviser la tarte. Mais lui, quand il faisait sa tarte, ce qui rentrait dans la composition, les ingrédients, ça le dérangeait pas. Ben, je pense qu'on devrait peut-être se mêler un peu plus de ce qui rentre dans la composition de sa belle tarte énergétique. Parce qu'entre autres, ils ont ramené le projet de faire la réfaction de Chantilly, qui est notre usine nucléaire ici au Québec. Mm-hmm. Inquiétant, non? Une
autre question, puis encore une fois, on se retrouve à se questionner sur l'orientation énergétique en général d'Hydro-Québec. Je pense que 2004 a été une année charnière pour ça. Avec les chiffres qu'on a vus sur l'éolien, avec le potentiel qu'on voit avec l'efficacité énergétique, puis avec les décisions qui ont été prises sur le thermique, je pense que sérieusement, faut s'attendre en 2005 qu'il y ait des grosses décisions qui se prennent point de vue énergétique au Québec, sinon il va avoir une émeute.
Mais on sait déjà d'avance, le gouvernement s'est annoncé haut et fort qu'il allait se lancer dans l'hydroélectrique. Et c'est d'ailleurs problématique parce que Nicolas, il y a deux secondes, disait justement, on a besoin d'un débat au sein du Québec. Eh bien, on l'a eu, on va l'avoir, du moins ce fameux débat-là. Ça va être sous forme d'une commission parlementaire que les libéraux provinciaux ont annoncé lors de la fameuse promesse électorale. Eh bien, cette commission parlementaire-là, on l'a annoncé juste avant Noël. On a dit aux gens, aux groupes environnementaux, aux citoyens, vous devez présenter un mémoire le 4 janvier au retour des fêtes. Ça a été reporté suite à une demande des groupes écologistes au 11 janvier, mais ça donnait à peine une trentaine de jours dans le temps des fêtes pour parler de cette fameuse question d'énergie-là au Québec. Et ce sont des députés non pas spécialisés aucunement en énergie qui vont s'asseoir autour d'une table, qui vont entendre les gens et qui vont décider de l'avenir énergétique au Québec. Je ne crois pas que c'est la bonne place et il y a beaucoup de gens qui vont se plaindre à ce niveau, il n'y a pas à dire.
Coup de masse.
Coup de masse monumental. Au retour, on parle de transport, d'OGM, de biodiversité, d'eau, de pollution et de plein d'autres choses encore.